Nous avons considéré dans nos dernières réunions les deux grands thèmes du bien et du beau, deux concepts clés de la philosophie traditionnelle. Il me semble qu'il est bon pour cette séance qui sera peut-être la dernière du cycle, c'est ainsi que je la conçois, de revenir à cette vraie, à la question du vrai. Nous l'avons touché lorsque nous avons introduit notre série en considérant le discours de l'apôtre Paul à l'Aréopage, au chapitre 17 du livre des Actes. Nous en parlons déjà un peu loin pour plusieurs, et puis nous n'avons pas eu le temps de développer. Donc il me semble que nous faisons bien aujourd'hui de voir comment nous disposer face aux thèses des philosophes quant à la vérité, sa notion, ses critères, et quant à la manière de bien conduire son esprit pour qu'il accède à la vérité, ce qu'on appelle classiquement la logique. La logique comme l'une des disciplines de la philosophie. Quelle disposition devons-nous adopter pour être fidèles à la foi et à l'enseignement de l'Écriture face à ce que divers philosophes ont pu proposer à cet égard? Tel est le sujet pour aujourd'hui. Alors, je viens de dire que je pense que ce serait assez normal que ce soit la fin, la conclusion de notre cycle actuel face aux philosophes. Qu'allons-nous faire par la suite? Vous le savez, j'essaie de répondre à vos souhaits, si je le peux. Et je pense que nous entamerons un nouveau cycle, si Dieu nous en donne tous la vie et la force, au mois d'octobre prochain. C'est pas pour tout de suite. Donc, mais je pense qu'au mois d'octobre, nous pourrions commencer quelque chose de nouveau. Et j'ai deux propositions, et la troisième étant une proposition d'ouverture entière à vos suggestions. Si vous avez une autre idée, c'est très possible. Alors, première suggestion, si nous voulons encore continuer sur la lancée de l'année qui s'achève, nous tourner vers les philosophes, non pas en reprenant des points de doctrine, mais en présentant quelques personnalités marquantes. Est-ce que ça vous intéresserait que nous consacrions une séance, par exemple à Socrate, une séance à Saint-Augustin, une séance à Emmanuel Kant? Voilà. Il ne faudrait pas que ça s'éternise, mais en fait, je pense que pour les 5-6 séances de l'année, ce serait concevable. Donc, voilà une proposition. Deuxième proposition, revenir à un genre d'étude que nous avions fait ensemble pendant un certain temps, des passages délicats, riches, mais peut-être pas tout faciles d'abord, de l'Écriture, donc une étude de nouveau de quelques passages. Et alors j'attendrai, si, en particulier si je n'ai pas d'idée très, très précise à ce propos, que vous me fassiez des suggestions. Un passage qui vous intéresserait, nous pourrions avoir une deuxième série de cette sorte. Troisième option, alors là, ouverte, comme j'ai dit, mais je suggère que ça fait un bout de temps quand même que nous n'avons pas pris de doctrine de la foi chrétienne pour elle-même, en quelque sorte, en essayant peut-être de scruter les jointures un peu plus délicates, puisque notre groupe est censé fouiller un peu davantage des choses que les autres groupes ne peuvent le faire. Alors ce serait une troisième option, mais vous le voyez, sans rien de précis pour vous repérer à ce stade. Alors si nous avons quelques minutes à la fin de l'heure, c'est-à-dire avant 25, vous pourrez déjà vous exprimer à propos de ce que je viens de dire. Sinon, vous pouvez m'en faire part librement à tout moment. Jacques, vous demandez la parole quand même tout de suite.
Il y a une question qui nous préoccupe, je dis nous, c'est un pluriel, qui nous préoccupe, c'est la question du rapport à la loi et à l'autorité dans le cadre des lois Payon, Madame Taubira, M. Payon veulent mettre en place et qui menacent gravement les fondements de notre société et notamment de l'éducation des enfants et l'enseignement puisqu'il y a parmi nous des gens qui se pensent en enseignement. Donc je ne sais pas si on pourrait trouver à un moment donné de place pour une séance qui serait consacrée à cette question-là qui nous tourmente beaucoup. Il y a des maires qui sont qui se posent la question de et j'ai écouté ces jours-ci plusieurs de tes enseignements sur la disons, sur la philosophie et sur ces questions-là, et tu as déjà fait des remarques concernant la homosexualité et
oui, nous avons consacré une séance aux institutions, donc y compris celle de l'État. Et nous avons eu quelques remarques sur l'éducation à ce propos, et nous avons eu une séance d'entretien où il a été assez largement question des problèmes que tu viens d'évoquer, mais rien n'empêche que nous y revenions si nous ressentons le besoin d'aller plus loin et de passer un peu plus de temps ensemble sur ce genre de choses, très bien. Hein. Oui, moi je vais. On peut très bien concevoir avant une autre série, hein, puisque j'ai parlé de série. Une, voire deux, si c'est nécessaire, deux séances à l'automne consacrées au sujet de l'autorité en particulier dont sont investis les magistrats et de notre attitude à l'égard de la loi positive, c'est-à-dire de la loi qui est promulguée. On distingue classiquement, n'est-ce pas, la loi naturelle, la loi comme expression de ce qui est juste, et puis la loi positive, la loi en tant qui est dicté, promulgué, on peut très bien envisager, effectivement, d'aborder ces questions dans des séances à venir. Merci, merci bien. Oui. Oui, ça fait tout à fait partie du sujet. C'est un point précis et je dirais une jointure particulièrement délicate à traiter de ce sujet qui a été évoqué et nous pourrons y revenir. Bon, mais je vous remercie déjà de ces commentaires et donc nous nous tournons maintenant vers le sujet assigné pour ce jour et je lis un texte pour préfacer nos travaux dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, qui sans doute, plus que tout autre auteur biblique, mériterait le titre de philosophe, l'auteur inspiré par Dieu qui semble s'être aventuré, si j'ose dire, en tout cas s'être promené, dans le domaine qui est souvent considéré comme celui des philosophes. Certains ont même pensé qu'ils pouvaient avoir lu les philosophes grecs. Parmi les commentateurs, certains l'ont pensé. Alors, au chapitre 7 de son livre, donc le livre de l'Ecclésiaste, je lis les versets 23 et suivants. Il vient de parler du danger de l'excès dans la prétention à la sagesse et même l'ambition de la sagesse. Il vient de parler de l'attitude envers ses domestiques. Et il dit au verset 23, « Tout cela, je l'ai mis à l'épreuve par la sagesse. J'ai dit, j'aurai de la sagesse. Mais elle reste loin de moi. Lointain est ce qui est. Profond, profond. Qui peut le trouver ? Je me suis appliqué à savoir, à explorer, à chercher la sagesse et la raison. » À savoir que la méchanceté est stupide et que la folie est démente. Or, j'ai trouvé plus amer que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un filet, dont les mains sont des liens. Celui qui plaît à Dieu lui échappe, mais le pécheur sera pris par elle. Voilà ce que j'ai trouvé, dit Coëlette, c'est le nom dans l'hébreu qui est traduit classiquement l'Ecclésiaste. Donc c'est l'auteur du livre, mais c'est un titre, c'est pas son nom propre. Voici, voilà ce que j'ai trouvé, dit Coëlette, en les considérant une à une pour en trouver la raison. Je cherche encore et je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais une femme entre elles toutes, je ne l'ai pas trouvé. Voilà seulement ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les humains droits, mais eux ont cherché bien des subtilités. Si j'ai choisi ce texte pour préfacer nos réflexions, bien qu'il ne contienne pas le mot de vérité, il est quand même question de l'accès à ce qui est lointain et ce qui est profond, profond, qui peut le trouver. C'est bien la question de la vérité qui est posée. Si je l'ai choisi, c'est parce qu'il contient trois fois une racine qui correspond assez bien au mot « raison » en français, un mot qui évoque dans l'original le calcul, mais comme le mot « raison », comme divers mots du vocabulaire de l'activité intellectuelle dans diverses langues, la pensée du calcul est très proche de celle de tout le fonctionnement de l'intelligence. Le mot « pensée » vient d'ailleurs de peser. C'est aussi un mode de mesure de calcul. Nous l'avons trois fois, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une racine qui intervient si souvent, nous l'avons trois fois dans le texte que nous venons de considérer. L'Ecclésiaste dit qu'il s'est appliqué à chercher la sagesse et la raison, première fois où apparaît ce mot de calcul. Au verset 27, voilà ce que j'ai trouvé en les considérant une à une pour en trouver la raison. Et encore, tout à la fin, Dieu a fait les humains droits, mais eux ont cherché bien des subtilités. Le mot traduit subtilité est très proche, il est de la même racine, et il est très proche de celui qui est employé les deux fois précédentes. Alors il y a une petite inexactitude, autant pour moi, hein, j'aurais dû surveiller ça, mais dans la note de la Nouvelle Bible Second, parce que j'en suis co-responsable, hein, comme certains le savent, il est dit là, le même terme hébreu est le pluriel du mot traduit par raison au verset 25 et suivant. C'est pas tout à fait le même terme, en fait. Ce n'est pas donc le pluriel du même terme, mais il en est très très proche. Le mot, c'est rishavon et pas rishbon, mais voilà, ce sont deux dérivés de la même racine rachav qui signifie calculer et plus largement penser, de façon courante. Et alors le mot rishavon, qui est écrit donc dans ce dernier verset, n'est employé qu'à cet endroit et un autre. Dans le livre des chroniques, là la note de la NBS est juste, il est employé pour des inventions que les ingénieurs de Jérusalem ont réalisées, des machines de guerre pour se défendre dans le siège. Donc, le mot, vous voyez, évoque un travail de calcul, de pensée assez techniquement poussée pour la confection de machines. Alors, subtilité, c'est des constructions intellectuelles qui jouent un peu ce rôle. Bon, ce n'est pas une mauvaise traduction. Hein. Mais vous voyez le rapport, là. Peut-être pourrions-nous traduire machination, mais ce n'est pas tout à fait ça, quand même. Trois fois ce terme, dans ce court passage, c'est quand même beaucoup, c'est sans doute intentionnel, d'autant plus qu'il y a cette partie sur le compte qu'il a fait. Cherchant en trouver une, il n'en a pas trouvé entre toutes, en comptant une à une, et un homme entre mille, pas plus. Et la question se pose, me semble-t-il, pourquoi cet entre-là du thème de la recherche de la sagesse, de la raison, en sollicitant toute l'épuisance de calcul de l'esprit humain, et cet avertissement contre la femme séductrice. Bien, ça peut être signalé que le mot Coëlette, qui est le nom que porte l'auteur dans ce livre, soit du féminin, comme genre grammatical. Alors, c'est le genre grammatical, c'est pas le sexe. Hein. Surtout pas confondre. Mais c'est quand même intéressant. C'est probablement un mot de valeur abstraite. Je crois que un équivalent assez proche serait de dire la chair. Vous savez, on dira l'éloquence de la chair pour l'éloquence de Bossuet. Bossuet est un homme, mais on dira la chair, parce qu'il parlait de la chair et par métonymie, on emploiera ce féminin grammatical pour désigner ce grand orateur. Et je pense que Qohelet a à peu près cette nuance. Le mot, donc, qui est de genre grammatical féminin, vient du mot assemblée, église. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ecclésiaste. C'est l'homme qui s'adresse à l'assemblée, qui a une fonction d'enseignement à son égard. Donc, au fond, c'est la chair. Bon. Pourquoi la chair avertit-elle ici contre la femme séductrice dans ce contexte? Je pense qu'il faut nous rappeler de toute façon que c'est un homme qui parle. Il est clair par les pronoms qu'on a dans le reste du livre que la forme féminine de Qohelet ne signifie pas que c'était une femme. Je pense qu'il y a au moins un livre biblique qui a été écrit par une femme, mais ce n'est pas celui-là. Je pense que le Cantique des Cantiques, je vous l'ai dit, a été écrit par une femme, mais pas Qohelet. Alors, c'est lui qui dit que, étant un homme, il n'a pas trouvé une seule femme. C'est le problème de la relation qui est ainsi posée. Un homme entre mille, hein, quand même pas beaucoup, et pas une femme. Mais au-delà, quelle est l'intention de ce mélange des deux thèmes dans ce paragraphe? Je vous suggère trois pensées à ce sujet. D'abord, c'est un rappel de l'association intime de l'obéissance et de l'intelligence. Cela nous est révélé, enseigné, confirmé dans toute l'Écriture. Ne nous imaginons pas que conduire son intelligence, ça n'a aucun rapport alors avec la conduite que l'on tient, avec les dispositions que l'on a à l'égard des autres. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles, aussi dans le fonctionnement de leur intelligence. Et je suis persuadé qu'il y a des erreurs d'aiguillage majeures, en philosophie même, qui ont été comme la sanction de corruption morale. Qui peut prendre la forme de la vanité, qui peut prendre la forme du mensonge. Mais bibliquement, on ne peut pas séparer. Et l'avertissement contre la femme séductrice est, pour celui qui cherche la sagesse, qui cherche l'accès à ce qui est, c'est un avertissement important. Deuxième pensée, il peut y avoir là l'écho de ce qu'on trouve dans le livre des Proverbes, qui est le premier livre de sagesse de l'Ancien Testament, le plus long. Enfin, le plus long. Job est plus long en nombre de chapitres, mais enfin, ils sont tous les deux très longs. Dans le livre des Proverbes, la sagesse et son contraire, la folie, la sottise, et spirituellement parlant aussi, sont représentées par des femmes. Ça fait partie de la pédagogie du livre des Proverbes que de proposer deux figures féminines opposées pour correspondre à la sagesse et à la folie. La femme légitime est un symbole pour la sagesse à rechercher, qui honorera celui qui l'épouse. De la femme légitime, il est dit, sois sans cesse enivré de ses charmes. L'amour de la sagesse. Et il est montré aussi, à la fin du livre, qu'elle est bonne gestionnaire de la maison. C'est la figure de la sagesse représentée par la femme. Et elle invite à son banquet la sagesse, prépare un bon repas, au chapitre 9 du livre des Proverbes. Et face à elle, il y a la folie, l'orientation insensée de la pensée, qui propose de son côté aussi son repas, son anti-repas qui lance son anti-appel, son invitation à suivre ces voies funestes qui conduisent à la mort. Et la femme insensée, c'est aussi la séductrice, la courtisane ou l'adultère. Vous avez cette opposition qui court dans tous les livres des Proverbes. Alors, je pense que l'Ecclésiaste a bien pu avoir ce contraste à la pensée en avertissant contre la femme séductrice. C'est l'avertissement contre les pièges de la prostitution intellectuelle. Tous ces charmes trompeurs, c'est attirant, mais c'est empoisonné. Ça, je pense que ça fait partie aussi de l'intention de cet entre-là dans notre passage entre l'avertissement contre la séductrice et le thème de la recherche de la sagesse. Je me demande s'il n'y a pas un troisième niveau encore. Alors là, c'est à mes yeux moins certain, c'est assez spéculatif, mais je vous propose. Je pense qu'on peut suggérer que la femme représente pour l'homme, puisque c'est un homme qui est là en situation de recherche de pensée, l'autre, précisément ce mystère de l'être, ce qui est insondable au bout du compte. Loin, 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 ce qui est profond, profond, qui peut le trouver? Le mystère féminin pour l'homme est représentant de cette altérité inépuisable de ce qui est à connaître, de la vérité que nous pouvons apprivoiser, vers laquelle nous pouvons faire quelques pas, avec laquelle nous pouvons avoir une relation positive, mais que nous ne dominerons pas, que nous ne réussirons pas à démonter et à rendre entièrement disponible à notre fantaisie. L'altérité du mystère féminin pour l'homme, je pense, peut servir de symbole à cet éloignement que le texte proclame, il l'enseigne, du mystère de l'être et donc de la vérité. Nous pouvons y tendre avec l'aide de Dieu qui nous révèle ce qu'il veut nous révéler, mais les choses cachées demeurent au Seigneur notre Dieu. Et ce qui est demeure d'une profondeur inépuisable et insondable pour notre raison. Vous voyez ce que je crois pouvoir commenter de ce passage et de son étrange stratégie pédagogique. Alors, ces choses-là dites entre nous, il faut maintenant faire face aux philosophes et résumer les choses que je veux résumer aujourd'hui. Mais nous allons prier le Seigneur de nous aider. Est-ce qu'Edith, tu voudrais nous conduire dans la prière?
Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir nous pencher plus approfondie, d'une manière plus approfondie dans le texte que tu nous as donné. Nous voulons te remercier des richesses que tu nous permets de nous approprier. Nous voulons te remercier aussi de l'intelligence que tu dispenses à tes enfants. Et c'est ce que nous voulons te demander maintenant, d'ouvrir notre intelligence, comprendre, nous approprier, vivre ce que nous comprenons. Merci de nous garder attentifs, vigilants, pour vivre ta parole avec l'aide de ton Saint-Esprit. Nous te remercions.
Amen. La notion du vrai, pour commencer, j'en ai traité du point de vue biblique dans des articles de la revue Rokhma autrefois. Ça a été d'ailleurs republié dans un numéro qui reprenait de vieux articles, mais qui semblait garder de l'intérêt. Donc vous pouvez trouver ça assez facilement. Alors je résume. Donc. Je ne me préoccupe pas des variations qui me paraissent superficielles de l'usage du mot. On peut dire que nous avons une vraie connaissance d'un objet ou que nous connaissons la vérité. Ça peut être l'objet ou la qualité de notre connaissance. Ça revient au même. Donc ce n'est pas cela qui me semble intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la rivalité de conceptions divergentes de la vérité, mais qui sont peut-être conciliables quand même jusqu'à un certain point entre elles, dont chacune peut peut-être s'accrocher à quelque chose qui mérite d'être retenu. Donc, les conceptions divergentes de la vérité en philosophie, à ces conceptions sont aussi liées des critères du vrai, d'une manière qui n'est pas de soudure absolument impossible à dissocier, mais quand même une correspondance assez nette. Alors, il y a d'abord la conception classique, qu'on appelle réaliste. Elle est réaliste, non pas au sens de tous les jours, hein, on dit de quelqu'un qui est réaliste quand il ne rêve pas trop, etc. Non, c'est pas dans ce sens, c'est dans un sens philosophique plus précis. La notion de vérité est définie par l'accord avec le réel. Et c'est pour ça qu'on dit réaliste. Qu'est-ce qui rend une parole vraie? C'est qu'elle correspond au réel, à ce qui est. Voilà la notion classique de la vérité. On l'a exprimé parfois en disant c'est l'adéquation de la chose et de l'intelligence. Quand l'intelligence épouse en quelque sorte la réalité, la chose, alors l'intelligence est dans le vrai. Cette notion a dominé l'histoire de la philosophie. Il semble que ce soit la notion commune. Et ceux qui la critiquent très souvent la considèrent comme celle du bon sens vulgaire, un peu méprisable pour cette raison. C'est la notion commune, mais c'est aussi la notion des grands philosophes du premier essor de la philosophie. C'est celle des grands penseurs d'Athènes, Socrate, Platon, Aristote, et la tradition qui a très souvent fait référence à ces grands penseurs, a été la tradition réaliste. Alors, accord avec le réel, cela permet une polarité à l'intérieur du camp de ceux qui adoptent cette notion, donc une distinction philosophique interne. La réalité, nous savons bien que parfois, nous ne la voyons pas comme elle est. Il y a des illusions d'optique. L'exemple très classique, très souvent cité dans toute l'histoire de la philosophie, c'est celle du bâton qui est à moitié immergé dans l'eau. Il est tout droit, c'est un bâton tout droit, et vous voyez pourtant qu'il est coudé, si vous regardez. C'est une illusion d'optique. Et donc, il y a une distinction entre l'être et l'apparaître. Et selon que vous creusez cette distinction ou non, vous allez différencier au sein de la notion réaliste de vérité. Il y a une tendance idéaliste au sens ancien du terme, celle de Platon, qui dit ce qui est la vraie réalité, et donc la vérité c'est d'accéder à cette réalité-là, c'est l'idée, c'est la forme pure qui a un statut céleste pour lui, qui existe par soi, elle est éternelle, sans mélange, et elle se reflète de manière imparfaite sur la terre, dans la matière. La matière est comme un miroir, mais un miroir sale, endolé. Et donc nous réussissons à penser les choses parce que nous avons le souvenir enfoui en nous de l'idée que nous avons contemplée avant de venir sur la terre, comme âme dans ce domaine céleste des idées, nous reconnaissons à son reflet déformé l'idée et ainsi nous pouvons penser. Nous avons l'idée de la bonté que nous avons contemplée. Nous voyons une chose sur la terre qui est plus ou moins bonne, mais nous la pensons bonne parce que nous reconnaissons le reflet de l'idée. Alors c'est du réalisme, puisque l'idée est considérée comme réelle, mais c'est un réalisme idéaliste, parce que ce n'est pas la réalité toute quotidienne et matérielle qui est la norme. C'est au sein de cette réalité que l'idée est repérée. Le disciple, longtemps assistant, mais ensuite rival de Platon, Aristote, qui a fondé sa propre école après, lui était d'un tempérament beaucoup plus terre-à-terre. Il y a un tableau fameux qui représente Platon avec l'index levé vers le ciel, et puis Aristote avec le sien vers la terre. Ils ont, voyons, nous ne raconterons pas d'histoire, ce qui est réel, c'est ce qui est réel. Alors, il reste quand même très proche de Platon, en ce que dans le réel terrestre, c'est la forme correspondant à l'idée de Platon qui est le vrai réel, et qui est l'objet de science, et qui règle le discours qui sera dans la vérité. Mais, vous voyez, il y a quand même une distinction d'orientation qui est extrêmement frappante. Alors, difficulté de cette notion de la vérité, une notion réaliste, que les autres ont critiqué. Qui dit qu'il y a accord entre le réel et la pensée? Le réel et la pensée, ou le discours qui exprime la pensée, la parole, sont deux réalités hétérogènes. La chose matérielle, même avec sa forme, et la pensée, comment franchir la distance qui les sépare, la distance qualitative qui les sépare? Comment, au nom de quoi dire qu'il y a accord ou désaccord, puisque ce sont deux choses, deux réalités radicalement différentes? C'est là la difficulté de la notion réaliste de vérité, aux yeux de ces critiques. Un critère de reconnaissance de la vérité qui correspond à cette notion réaliste, c'est le critère de l'accord avec le réel. Je dis quelque chose, je vais chercher si dans la réalité c'est bien comme ça. Je dis il pleut, est-ce que c'est vrai ou non? Je sors pour voir si tombe des gouttes. Si dans la réalité il tombe des gouttes, je dis ma parole, il pleut, était vrai. S'il ne tombe pas du tout, c'est tout ce que par terre, la parole était fausse. Le critère, c'est l'accord avec la réalité. Cette notion de la vérité, je crois, malgré un certain nombre de théologiens qui ont essayé, mais des libéraux, qui ont essayé de l'éviter, je crois qu'elle est très présente dans l'écriture. Je l'ai montré dans les articles que j'ai évoqués, donc je n'entre pas dans le détail, mais vous trouvez ça très très souvent. Vous trouvez ça, par exemple, dans ce qui est dit d'une enquête. Il y a une allégation sur un crime qui a été commis, etc. Les magistrats d'Israël, d'après la loi, doivent aller voir ce qui, dans les faits, peut être établi, et donc vérifier s'il y a accord ou non entre ce qui a été dit et puis ce qui a été réel, là, dans les faits. C'est aussi le critère de la parole de Dieu comme vérité dans la prédiction. Le faux prophète, c'est celui qui annonce quelque chose qui ne se produit pas, qui n'a pas sa correspondance dans les faits. Et ça, c'est vraiment très présent dans toute l'Écriture. L'argument avec la résurrection, dûment attesté par ses témoins oculaires, mais l'argument majeur pour la vérité du christianisme dans le Nouveau Testament, c'est la réalisation des prophéties. Les prophéties ont leur réalité dans une correspondance parfaite entre leur énoncé dans l'Ancien Testament et ce qui s'est passé réellement sur les routes de Galilée, à Jérusalem, avec Jésus. Donc la notion est présente et le critère est employé. Deuxième notion, La conception idéaliste au sens moderne. Alors, voyez, il faut être prudent, hein. Il faut bien savoir dans quel sens on emploie les termes. En philosophie, il y a pas mal de mots qui ont eu des sens différents selon les auteurs et selon les époques aussi. Alors, attention. Au sens moderne, la notion de vérité idéaliste, c'est celle qui ne loge pas la vérité dans l'accord avec le réel. Et celui qui a le plus fait pour accréditer cette notion, j'ai mentionné déjà son nom tout à l'heure, Emmanuel Kant, le grand philosophe du XVIIIe siècle, qui était à Königsberg, la ville qui a été baptisée Leningrad au temps des Soviets, qui était philosophe donc dans ce qui était la Prusse orientale à l'époque. Kant dit « Mais le réel, il nous est inaccessible ». Il renchérit sur l'Ecclésiaste, loin, loin, profond, profond. Pour lui, la chose en soi, le réel, est inaccessible. Et du coup, dire la vérité, c'est l'accord avec le réel, ça ne peut pas jouer. Alors, la vérité, c'est un accord interne de la pensée ou du discours. C'est la cohérence interne de la vérité qui est son critère à partir de là. Lorsque la construction de la pensée obéit à certaines règles, y compris donc la règle de non-contradiction, d'harmonie, etc., alors c'est la marque de la vérité. Et cela permet l'objectivité au sens de l'intersubjectivité. Kant n'était pas du tout en faveur de l'idée que à chacun sa vérité, c'est n'importe quoi, chacun pense ce qu'il veut. Non. Il était persuadé qu'il y a une vérité à laquelle tous les esprits intelligents doivent se rallier, et donc accord entre les sujets, voilà ce que veut dire le mot intersubjectivité, ce qui donne un statut de savoir objectif, c'est quelque chose qui doit normer la pensée de chacun, à la science, il pense tout spécialement à la science que Newton avait fait triompher, mais ce n'est pas l'accord avec le réel, vous voyez. Une façon de dire ce qu'il a dit, c'est que notre connaissance n'est pas descriptive, elle ne décrit pas le réel, elle est prescriptive, elle lui prescrit, elle lui commande. C'est une organisation de ce qui, finalement, est chez lui considéré assez comme une masse amorphe de sensations et de ce qui vient par les sens. C'est une prescription, une formation que notre esprit impose à cette masse, mais selon des règles qui sont telles que tout esprit intelligent doit s'y rallier. Et lorsque la démonstration scientifique est faite, tout le monde doit dire oui, sous peine d'être enfermé dans un asile. C'est la notion idéaliste de vérité. Alors, le critère de cohérence est un critère très, très important. Et je pense qu'on peut dire que ce critère est employé dans la Bible aussi. Que la Bible souligne que la cohérence interne caractérise la vérité. Les faux témoins qui s'élèvent lors du procès de Jésus, devant le Sanhédrin, il est souligné qu'ils se contredisent. Même dans le mensonge, ils ne réussissent pas à avoir uniformité de propos, ce qui montre bien qu'ils ne disent pas la vérité. Ce critère de non-contradiction est aussi appliqué pour les faux prophètes. Un prophète qui enseigne contrairement à ce que Dieu a clairement enseigné par de vrais prophètes reconnus avant lui, il se condamne lui-même comme faux prophète. Donc le critère de la cohérence et donc une partie de la notion de vérité qui s'y rattache est aussi présente dans la Bible. Troisième conception de la vérité, une conception qu'on pourrait dire subjectiviste. Alors le mot subjectiviste vient du mot sujet et le sujet désigne la personne, le je dans le langage des philosophes. c'est tout spécialement celui qu'on a appelé le père de l'existentialisme, le penseur luthérien danois Kierkegaard, Søren Kierkegaard, qui a fait des études de théologie, hein, qui a même prêché quelques fois, mais le plus souvent, il a écrit ses sermons. Il n'a jamais été pasteur en paroisse, hein, mais qui a parlé au nom de la piété et qui a écrit des ouvrages de sermons. Kierkegaard, le père de l'existentialisme, fait de l'engagement de la personne la vérité même de sa foi. Il dit, le bourgeois replet de Copenhague qui écoute la prédication au culte luthérien du dimanche matin et qui récite le credo, tout en pensant à sa déclaration de revenus, il n'est pas dans la vérité. Mais le païen dans sa hutte au fin fond de l'Afrique, qui à l'époque, c'était au milieu du 19e, c'est tout à fait inconnu, mais le païen au fond de l'Afrique, qui se prosterne sur le sol avec une passion infinie pour son Dieu, lui est dans la vérité. Alors, en fait, Kierkegaard, je pense pour lui-même, c'est bien qu'il n'y a pas que cet engagement subjectif et que c'est le credo qui est plus vrai que les croyances que pourrait formuler le païen d'Afrique, mais il ne le dit pas dans le passage que j'évoque et, disons, dans la doctrine qu'il professe comme philosophe, toujours d'ailleurs sous un pseudonyme. Ses sermons, il les publie sous son nom. Mais ses ouvrages philosophiques, qui sont considérés comme les ouvrages fondateurs pour la tradition existentialiste, il les a toujours écrits sous des pseudonymes, des noms d'emprunt, parce qu'il voulait réveiller ses concitoyens, en quelque sorte, par la bande, de manière parabolique. Donc il écrivait sous des pseudonymes. Mais enfin bon, c'est par là qu'il a été influent, et dans son... plusieurs de ses ouvrages, mais tout spécialement un ouvrage massif que, plein d'ironie, il a intitulé « Postscriptum final non scientifique aux miettes philosophiques ». Dans ce livre très important, donc, il affirme que la vérité en matière religieuse, en matière sur les questions ultimes, c'est la subjectivité, l'engagement de la subjectivité. Et cette thèse a été adoptée par des théologiens aussi qui ont été marqués par l'existentialisme. En fait, il y a bien une raison sous-jacente. C'est paradoxal, puisque ça paraît tout à fait opposé à toute raison. Mais ce qui justifie la position, c'est qu'ainsi l'essence de l'homme s'accomplit. L'homme est fait pour l'éternel, et l'éternel contredit tout ce qui est temporel. Alors, en brisant par cette présentation toute relation de sécurité dans le temporel, l'homme s'accomplit pour l'éternité. C'est le vrai accomplissement de l'humain que cet engagement subjectif maximal permet. Alors, ce critère de l'accomplissement de l'humain, il peut s'élargir, je pense qu'il s'élargit comme critère du vrai chez plusieurs, c'est celui du fruit vital. La vérité, ce n'est pas ce qui s'accorde avec le réel, en tout cas d'abord, ce n'est pas ce qui est cohérent en soi, libre de toute contradiction, c'est ce qui me fait vivre, avec quoi vraiment je peux vivre. Voilà un troisième grand critère du vrai. Alors dans la Bible, bien dans la Bible, en tout cas, la vérité donne la vie. Elle est vivifiante. Cette association avec la vie, elle est très présente dans pas mal de textes. Et l'idée d'un engagement subjectif pour qu'on soit dans la vérité, il est là. Précisément, celui qui ne s'engage pas reste extérieur à la vérité. La foi est requise. Et c'est tout spécialement l'accent de la piété, du piétisme et des réveils qui a mis l'accent sur l'engagement subjectif. Et les piétistes aimaient beaucoup citer Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire ma volonté, alors il saura si ma doctrine est de Dieu, dit Jésus. Un engagement de la personne, un engagement subjectif, requis pour la connaissance de la vérité. Donc, vous voyez, chacune des trois grandes notions peut se raccrocher quand même quelque chose, en tout cas les critères qui correspondent à ce que nous avons dans la Bible. Je pense que l'accord avec le réel est sans doute notion première, mais attention, la notion biblique ne s'y restreint pas. Et les autres éléments se trouvent aussi attestés. Alors, avant de développer un peu ce point que je viens de dire, je passe au deuxième thème que je fais ressortir, après la typologie des notions, qui était l'élément principal, la connivence entre l'esprit et le monde. La force de la conception réaliste, c'est l'expérience d'une rencontre, d'une connivence entre le réel et notre pensée, et notre discours qui exprime notre pensée. C'est ça ce qui fait que le sens commun se rallie spontanément à la notion réaliste de vérité. Il y a entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que nous pensons, une rencontre. C'est comme une clé dans une serrure, c'est comme deux éléments d'un puzzle qui vont ensemble. Et cela doit nous étonner, nous émerveiller. Parce que comment se fait-il que ce que nous cogitons se retrouve à ce point dans le réel qui ne dépend pas de nous. En dehors des mathématiques peut-être, et je dis peut-être parce que je pourrais voir des arguments contraires, toutes nos computations découvrent ce qui était caché dans le réel. Et c'est le propre de la méthode expérimentale moderne que de faire découvrir par l'expérience précisément la correspondance dans le réel de ce qui a été calculé, concocté par le savant, qui s'appelle classiquement l'hypothèse. Vous le savez, il y a des faits extrêmement frappants. La planète, on n'avait jamais vu, personne ne pouvait dire, par le calcul, l'astronome Le Verrier calcule qu'il doit y avoir une planète qu'on n'a pas vue, et le perfectionnement des instruments d'observation l'a fait découvrir. La planète était au rendez-vous du calcul. Extraordinaire. Un autre exemple tout à fait extraordinaire, bon, alors, j'en parle de l'extérieur, je ne suis pas un spécialiste, mais vous savez que depuis les Grecs, et le fondateur des mathématiques, pratiquement en Grèce, Euclide, le mathématicien Euclide, on considère que c'est un postulat nécessaire pour la construction de la géométrie, que d'un point situé hors d'une droite, on peut tracer une et une seule parallèle à cette droite. Quel postulat d'Euclide. Ça correspond à notre espace d'expérience. Or, des mathématiciens ont essayé de prouver, de démontrer mathématiquement ce postulat d'Euclide. Parce que c'est gênant quand même pour des mathématiciens d'avoir quelque chose qu'ils doivent poser là sans pouvoir le démontrer. Ils ont essayé, etc. Et au début du 19e siècle, ça a donné naissance à l'idée de géométrie non euclidienne qui ne rependait pas ce postulat. On se dit, puisqu'on ne réussit pas à le démontrer, voyons ce que ça donnerait si on en posait un autre, si on ne suivait pas Euclide. Alors, il y a eu d'abord un certain Lobachevsky, Nicolas Lobachevsky, qui a enseigné à Kazan, en Russie. Puis plus tard est venu, alors il a perfectionné, prenant l'autre option. En gros, paraît-il, Lobachevsky disait, on peut utilisant le postulat que d'un point situé hors d'une droite, on peut tracer une infinité de parallèles. Autre géométrie. Puis est venu l'allemand Bernhard Riemann, qui lui aurait plutôt dit une seule, aucune, mais qui a enrichi de toute façon la réflexion mathématique très largement. Des géométries non euclidiennes, qui paraissent totalement imaginaires, le mot imaginaire était d'ailleurs employé par Lobachevsky. Or, ces géométries non euclidiennes sont celles qui ont permis la théorie de la relativité générale d'Einstein. Ce qui n'a pas sa correspondance dans notre ordre de grandeur des choses, qui correspond à celle de nos sens, de notre propre corps, etc., dans notre espace, c'est Euclide, mais dans l'infiniment, pas infiniment, étonnamment grand du cosmos tout entier, ou dans l'extrêmement petit des particules, ce sont ces autres géométries qui servent. Voyez, des choses qui ont été concoctées comme ça, tout à fait indépendamment de tout accès au réel, semble-t-il, cette rencontre est extraordinaire. Et Einstein a dit, ce qui est le plus incompréhensible à propos du monde, c'est qu'il soit compréhensible. Comment se fait-il que notre intelligence... Et je crois, je résume hein, l'histoire de la philosophie, que ceux qui ont essayé de rendre compte de cette connivence merveilleuse sans un Dieu créateur n'y sont pas parvenus. Ça a été le cas de Kant. Justement, Kant, la chose en soi, on peut... Le réel, on ne peut pas y accéder. La vérité, c'est à l'intérieur de la pensée. Nous prescrivons au réel, mais c'est incroyable qu'il ait pu prétendre cela. Toute la méthode expérimentale des sciences va contre. Ça voudrait dire que n'importe qui fabrique son hypothèse, et si elle est logique, ça marche. Mais non, ça ne marche pas forcément. Le savant, ayant fabriqué son hypothèse qui est cohérente, va demander au réel, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est pas ça, par le moyen de l'expérimentation. C'est ça le sens même de l'expérimentation. Alors ça peut prendre des formes extrêmement compliquées, indirectes, etc., pour avoir la réponse de ce réel. Jusqu'à ces histoires récentes encore, c'est au CERN, pour vérifier ou non une hypothèse sur une particule élémentaire, est-ce qu'elle existe, est-ce qu'elle n'existe pas, le boson, je ne sais pas comment, une expérience faramineuse des tunnels de centaines de kilomètres. Justement, la formation par l'intelligence humaine de cette hypothèse ne suffit pas. Il faut cette réponse du réel, selon cette connivence. Je trouve ça énorme que Kant, sur ce point, ait fourvoyé les esprits à ce point et qu'il y ait si peu de réactions. Alors, il y a au moins deux facteurs un peu externes qui expliquent ce fourvoiement assez général. Il y a le prestige de Kant, qui sur certains points est éblouissant, et du coup, on a peur, dans la communauté académique, on a peur d'avoir l'air trop naïf, trop si on parle contre cette autorité de Kant. Il y a une vénération quasi cultuelle qui est un facteur dans la vie académique à travers les générations. Ça joue. Il y a aussi la complication de sa présentation. Car ce que je vous résume, c'est 600 pages, 700 pages de petits caractères avec des raffinements, des complications, des constructions, ce qui fait qu'il est bien difficile de s'y retrouver. Alors, il y a quand même des philosophes qui l'ont reconnu, hein, ce que je vous dis. Jean Brun, dans un passage, mais c'est très curieux, Jean Brun, qui est donc professeur de philosophie à l'université de Dijon, Il le dit, mais il ne le dit pas très souvent, et il n'a pas l'air de finalement en faire tellement un plat. C'est vrai qu'il se réclamait de Kant contre d'autres. Alors il ne voulait pas trop le démolir, mais il le dit, il l'a reconnu quand même, ce que je vous dis. Alors, j'ai peut-être les rivages du monde, mais je ne suis plus tout à fait sûr. Je pourrais donner la référence. Et puis, mademoiselle Lydia Yeager m'a passé une fois une citation d'un philosophe très coté aujourd'hui en France, hein, Jacques Bouvresse, qui le dit aussi assez clairement. Donc certains l'ont vu, mais apparemment ne se rendent pas compte de la portée explosive que ce devrait avoir par rapport à l'autorité de la solution kantienne. L'autre option, qui est celle de certains, ce serait de dire, c'est parce que notre esprit est lui-même issu de la nature, des phénomènes matériels, qu'il pense selon l'ordre qui est dans la nature. Je me rappelle avoir lu à peu près ça chez Jean Piaget, le grand psychologue de la psychologie génétique à Genève. Je crois que c'est ignorer le caractère de vis-à-vis qu'il y a dans la rencontre entre le réel interrogé par l'expérimentation et le penseur, le savant, avec son hypothèse. C'est ignorer le fait qu'il y a un travail beaucoup trop indépendant de l'esprit, et qu'on pourrait dire paracréateur, dans la confection des hypothèses, que ne peuvent pas vraiment expliquer les procédures évolutives qui conduisent à l'émergence de l'intelligence d'après les théories matérialistes. Donc, ce qui explique cette connivence, qui permet la notion réaliste de vérité, c'est que c'est le même Dieu qui, par sa parole, son verbe, a façonné le monde, a organisé l'ensemble de son fonctionnement, et qui nous a créé en son image avec une intelligence à l'image de la sienne. C'est ainsi qu'il peut y avoir correspondance. Et en fait, la correspondance de la notion biblique, ce n'est pas la correspondance de notre parole ou esprit avec la réalité, mais avec la parole de Dieu qui façonne la réalité. Et là, il n'y a pas ce problème de l'hétérogénéité radicale. C'est parce que la réalité est pénétrée de parole, portée par la parole de Dieu. Et le Fils porte toute chose par la parole de sa puissance, dit le prologue de l'Épître aux Hébreux. C'est parce que c'est parole et parole qu'il peut y avoir réellement correspondance et connivence. Le problème soulevé à propos de la notion réaliste de vérité se résout. Ta parole est la vérité. Nous sommes dans la vérité quand notre parole intérieure, notre pensée, se conforme à la parole de Dieu, et cela aussi dans l'entreprise scientifique. Lorsque nous interrogeons le réel par l'expérimentation, nous lui demandons quelle est la parole qui l'informe. C'est là la perspective. Alors j'ajoute un mot pour que n'ayons pas de cette solution fondamentale une vision trop simpliste. Cette réalité que la parole de Dieu informe, elle est multiple, elle est d'une richesse inépuisable, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction. Et donc notre conformité à cette parole ne nous permet jamais de la dominer. Nous pratiquons des coupes dans cette réalité qui est intelligible parce qu'elle dépend de Dieu, mais il s'agit de vues chaque fois partielles, et nous sommes actifs en la matière. À l'image de Dieu, nous avons une sorte de dynamisme paracréateur dans notre intelligence, ce qui veut dire que nous pouvons nous fourvoyer aussi. C'est une activité responsable, et nous pouvons prendre de mauvais aiguillages, nous pouvons nous tromper, ce qui fait que la piété, la conduite morale, ne se sépare pas, comme j'ai dit en introduction, de cette conduite de notre intelligence vers la connaissance de ce qui est. Alors c'est dans ce cadre que s'inscrit, et j'achève pratiquement par là, la place de la logique. La logique, c'est la sensibilité aux relations que Dieu a instituées dans le réel et en reflet de la cohérence qui est celle de Dieu lui-même. S'il y a cohérence dans le monde et dans la pensée, qui doivent se correspondre, c'est qu'il y a un seul Dieu. Un Dieu qui ne peut se renier lui-même, comme il nous le révèle dans la seconde épître à Timothée. Le principe de non-contradiction est le reflet de l'unité divine qui ne se, peut pas se déchirer, qui ne peut pas se diviser contre elle-même. À partir de là, le principe de la non-contradiction, qui est au cœur de la logique, j'avais préparé beaucoup plus, mais là je m'arrêtais. Le principe de la non-contradiction est un principe qu'on pourrait dire de contrebande pour ceux qui refusent le Dieu de la Bible, le Dieu un et parfaitement cohérent. Parce qu'ils ne pourraient pas vivre sans ça dans le monde, ils en font un certain usage. Ils reconnaissent une certaine cohérence, sauf vraiment des philosophes qui vivront tout autrement eux-mêmes, mais qui vont jusqu'à prôner l'éclatement de toute cohérence. Si les humains pensent selon le principe de non-contradiction, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et ils l'empruntent en quelque sorte, comme on emprunte contrebande, à ce que Dieu lui-même a institué et qui est fondé sur son être unique.
Et la dialectique, c'est quoi ?
Alors, la dialectique, au sens moderne, de nouveau, il faut distinguer, et au sens plus spécialement du philosophe Hegel, du début du XIXe siècle, c'est le reniement affiché du principe de non-contradiction. La raison sera vivante si elle admet de passer par la contradiction. Et le philosophe Jacques Maritain, par exemple, le philosophe catholique Jacques Maritain, a dit que c'est une logique agencée pour la supercherie. Je pense qu'on peut le montrer à divers moments de l'œuvre de Hegel, en effet. Mais il faut bien se rendre compte que Hegel lui-même ne peut pas quand même s'empêcher de penser à certains moments au moins, selon le principe de non-contradiction. Ce n'est pas purement et simplement on dit n'importe quoi. Même Nietzsche qui a dit, lui, on dit n'importe quoi, ne le fait pas. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être des créatures de Dieu et d'être dans un monde où, qui a sa cohérence. Donc, il renie la cohérence et effectivement la détruisent dans leur pensée à divers moments, mais à d'autres moments, ils sont obligés d'y obéir. Ils ne peuvent pas s'empêcher. C'est une phase d'un suicide de la pensée qui n'est pas encore tout à fait achevée, je suppose. Voilà, en gros, hein, ce que j'essaie de dire de la logique. Hein, j'avais une partie bien plus. Vous vous en doutez. Mais c'est l'heure, donc il va falloir que nous terminions. Mais je laisse ces deux questions s'exprimer sans forcément y répondre.
Une question, en fait, deux questions. Concernant ce qui est logique, dans la Bible, il y a une chose qui est humainement pour nous illogique, c'est la Trinité. Dans la nature, il n'y a pas de réel qui peut. Nous l'acceptons parce qu'elle est dite dans la Bible, elle est affirmée dans la Bible, et nous ne faisons que l'accepter, mais essayer de concevoir ce que c'est la Trinité, on se perd complètement. Et même la nature n'a pas cette vérité qu'on ne peut pas retrouver dans la nature. Et puis il y a une deuxième chose aussi,
l'idéalisme,
voilà,
oui.
Je pense dans l'Ancien Testament où Dieu a demandé à Moïse de faire le tabernacle.
Oui.
Et le tabernacle, c'est une idée dans le ciel. C'est comme une image, une idée qui lui a dit de refaire sur la terre. Mais on sait que même.
Oui, le modèle qu'il a vu sur la montagne. Oui.
Il y a cette notion de idée et cette notion de idée qui est formulée.
Oui, alors, effectivement, ce thème, qui est surtout exploité dans l'Épître aux Hébreux, fait penser au platonisme. Et beaucoup de gens considèrent que l'auteur de l'Épître aux Hébreux était platonicien de formation. Et il utilise des façons de présenter les choses qui évoquent le platonisme. L'idée qu'il y ait des formes célestes pouvait être employée, mais il s'agit de la pensée de Dieu. Ce n'est pas un monde d'idées qui existe par soi, comme des réalités. C'est Dieu qui pense ces choses dans la reprise chrétienne du platonisme. Alors, sur la première question, je viens d'écrire, j'ai écrit cette semaine, hein, je l'ai envoyé hier soir au directeur du dictionnaire, le professeur Christophe Payat à la faculté. Je viens d'écrire un article pour le dictionnaire d'apologétique qui va être publié l'année prochaine, sans doute, sur Dieu et sur la Trinité, entre autres. Et je traite précisément du point que vous avez soulevé. Je crois qu'il n'y a aucune contradiction, car Dieu est un et trois de deux points de vue tout à fait différents, qui ne sont pas en conflit, et qu'il y a des traces, on les appelle les vestiges ou vestigia en latin, de la Trinité dans la création, qui sont très intéressants à observer et qui sont assez persuasifs. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais vous voyez, j'y ai travaillé cette semaine même. J'ai envoyé mon texte. Donc, je vous assure qu'on peut plaider de cette façon. Voilà, mais disons que c'est une façon de montrer que tout dépend comment on conçoit les rapports. Si on met des signes de multiplication au lieu des signes d'addition entre 1 et 3, on n'a pas donc d'incompatibilité. Hein. Mais c'est pas non plus la clé de la doctrine de la Trinité, cela. Hein, mais c'est une façon de montrer que on va beaucoup trop vite quand on dit 1 et 3, c'est contradictoire. Oui. Vous avez aussi. Alors, je pense que la catégorie intellectuelle, pour Corneille, je ne sais pas, hein, mais en ce qui concerne la différence entre philosophe et intellectuel, dans mon langage, qui correspond en gros à celui d'aujourd'hui, les philosophes sont une catégorie d'intellectuels. À coup sûr, on dira que ce sont des intellectuels, mais ils se spécialisent, d'une part, dans l'étude des philosophes qui sont antérieurs. Certains vous diront, finalement, les philosophies, c'est l'histoire de la philosophie, c'est rien d'autre. Mais ils se spécialisent dans certaines questions, comme celles que nous avons traitées. Qu'est-ce que l'être? Ils étudient l'être en tant qu'être. Comment l'intelligence peut-elle atteindre la réalité, etc. Voilà, c'est ce type de questions. Quels sont les derniers principes de la conduite humaine, éthique? Qu'est-ce que le beau? Voilà les questions sur lesquelles les philosophes se spécialisent. Parmi les intellectuels qui peuvent, eux, avoir d'autres spécialités. Réfléchir à partir de la psychanalyse, par exemple, là, ce sera davantage des intellectuels psychanalystes. Voyez. Bon, je crois qu'il nous faut laisser la salle, mais vous pouvez toujours me parler. Hein.